Chapitre 26e. Gérald reprit en souriant. « J'en étais sûr, mon commandant. Il y a dans cette choquante inégalité de fortune quelque chose de si blessant pour l'orgueil d'un honnête homme. Que vous en êtes frappé comme moi, votre silence me le prouve. Le fait est, reprit le vétéran après un moment de silence, le fait est que je ne sais pas pourquoi la chose me paraîtrait toute simple si c'était l'homme qui apporta la fortune et que la femme n'eut rien. » Puis le vieux marin ajouta en souriant avec bonhomie, « C'est peut-être une niaiserie que je dis là, monsieur Gérald. Au contraire, votre pensée dictée par la plus noble délicatesse, mon commandant, reprit Gérald. On conçoit qu'une jeune fille sans fortune, mais charmante, remplie de grâce, de qualité, épouse un homme immensément riche. Tous deux sont sympathiques, mais qu'un homme qui n'a rien épouse une femme qui a tout. Ah ça, mon oncle, et toi, Gérald, reprit Olivier en interrompant son ami, qui avait attentivement écouté. Vous n'êtes pas le moins du monde dans la question. Comment cela? Vous admettez, et j'admets comme vous, qu'une jeune fille pauvre soit et reste très sympathique, quoiqu'elle épouse un homme immensément riche. Mais cette sympathie, elle ne l'acquiert qu'à la condition d'aimer sincèrement l'homme qu'elle épouse. Parbleu, dit Gérald, si elle cède à un sentiment de cupidité, cela devient un calcul ignoble. Tout ce qu'il y a de plus honteux, ajouta le vieux marin. Eh bien alors, reprit Olivier, pourquoi un homme pauvre, puisqu'en effet, Gérald, tu es pauvre, auprès de mademoiselle de Beauménil, pourquoi, dis-je, serais-tu blâmable en épousant cette jeune fille si tu l'aimais sincèrement, malgré ses millions, si tu l'aimais enfin comme si elle était sans nom et sans fortune? C'est juste, monsieur Gérald, reprit le commandant. Dès qu'on aime un honnête homme, et que l'on a la conscience d'aimer, non l'argent mais la femme, on est tranquille. Que peut-on avoir à se reprocher? Enfin, moi, je vous conseille de voir d'abord mademoiselle de Beauménil. Vous déciderez après. En effet, reprit Gérald, c'est, je crois, le meilleur parti à prendre. Il concilie tout. Ah, par Dieu, que j'ai bien fait de venir causer de mes projets avec vous, mon commandant, et avec toi, Olivier. Ah ça, voyons, monsieur Gérald, vraiment, est-ce que dans votre grand et beau monde, il n'y a pas une foule de personnes qui vous auraient dit ce que moi et Olivier venons de vous dire? Dans le grand monde, reprit Gérald en haussant les épaules. Puis il ajouta, et c'est d'ailleurs la même chose dans la bourgeoisie, si ce n'est pire encore. Partout, enfin, on ne connaît qu'une chose, l'argent. Et comment diable? Olivier et moi aurions-nous une grâce d'État, monsieur Gérald, et serions-nous autrement que tout le monde? Pourquoi? Dit Gérald avec émotion. « Parce que vous, mon commandant, pendant 40 ans, vous avez vécu de votre vie de marin, vie rude et pauvre, périlleuse, désintéressée, parce que dans cette vie-là, vous avez pris la forte habitude de la résignation et du contentement de peu, parce qu'ignorant toutes les lâches complaisances du monde, vous regardez comme aussi misérable un homme qui se marie pour de l'argent qu'un homme qui vole au jeu ou qui recule au feu. Est-ce vrai, mon commandant ?» Pardieu, monsieur Gérald, c'est tout simple, cela. Oui, tout simple, pour vous, pour Olivier, car il a vécu comme moi, plus longtemps que moi, de cette vie de soldat, qui enseigne le renoncement et la fraternité, n'est-ce pas, Olivier? Brave et bon Gérald, dit le jeune homme, aussi ému que son ami, mais avoue-le, ta générosité naturelle, la vie de soldat l'a peut-être développée davantage, mais elle ne te l'a pas donnée, toi seul, peut-être, sur tant de jeunes gens de ton rang. Tu étais capable de croire faire une sorte de lâcheté en envoyant un pauvre diable à la guerre se faire tuer à ta place. Toi seul aussi, parmi tant d'autres, tu éprouves des scrupules au sujet d'un mariage que tous voudraient contracter à n'importe quel prix. « Ne vas-tu pas maintenant me faire des compliments ?» répondit Gérald en souriant. « Allons, c'est convenu. Je verrai mademoiselle de Beauménil. Les circonstances feront le reste. Ma ligne est tracée. Je n'en dévierai pas, je vous le jure. » « Bravo, mon cher Gérald, reprit gaiement Olivier. Je te vois marié, amoureux et heureux en ménage. C'est un bonheur qui en vaut bien un autre, va. Et moi qui, ne sachant rien de tes projets, avais hier, en arrivant, demandé à Madame Herbault la permission de lui présenter un digne garçon, un ancien camarade de régiment, et Madame Herbault t'avait accepté à ma toute-puissante recommandation. Comment elle m'avait accepté ? Dit Gérald en riant. Est-ce que tu me regardes déjà comme mort et enterré? Tu peux bien dire qu'elle m'a accepté, et je te réponds que j'userai de l'acceptation. Comment tu veux, certainement, mais tes projets de mariage? Raison de plus. Explique-toi. C'est bien simple. Plus j'aurai de raison d'aimer la vie de garçon, plus il faudra que j'aime Mademoiselle de Beauménil pour renoncer à mes plaisirs, et moins je me tromperai sur le sentiment qu'elle m'inspirera. Ainsi, c'est convenu, tu me présentes chez Madame Herbeau, et pour me rendre encore plus fort, toujours contre la tentation, je deviens amoureux d'une des rivales ou même d'une des satellites de cette fameuse duchesse, dont le nom est pour moi un épouvantail, et dont je te soupçonne fort d'être épris. Allons, Gérald, tu es un fou. Voyons, sois franc. Me crois-tu capable d'aller sur tes brisées, comme s'il n'y avait que la duchesse au monde? Souviens-toi donc de cette jolie petite femme, d'un gros employé des vivres. Tu n'as qu'un mot à dire, je t'ai laissé le champ libre. Et pendant que le mari allait visiter son parc de bêtes à cornes, « Comment? Encore une autre ?» s'écria le commandant en s'adressant à Gérald. « Mais c'est donc un enragé que mon neveu !»« Ah, mon commandant, si vous saviez quel razzia de cœur il faisait en Algérie, le scélérat !» La charmante tribu de Madame Herbeau n'a qu'à joliment se tenir sur ses gardes. Allez, si elle ne veut pas être ravagée par Olivier. Mais double fou que tu es, je n'ai aucun mauvais dessein sur cette charmante tribu, comme tu dis, reprit gaiement Olivier. Mais sérieusement, tu veux que je te présente à Madame Herbeau? Oui, certes, répondit Gérald, et s'adressant au vieux marin. Il ne faut pas à cause de cela, mon commandant, me prendre pour un écervelé. J'ai accepté vos conseils d'amis à propos d'un mariage, direz-vous, et je termine l'entretien en priant Olivier de me présenter chez Madame Herbeau. Eh bien, si étrange que cela doit vous paraître, mon commandant, je dirais, non plus en plaisantant, mais sérieusement cette fois, que moins je changerai mes habitudes, plus il faudra, pour les abandonner, que mon amour pour Mademoiselle de Beauménil soit sincère. Ma foi, monsieur Gérald, reprit le vétéran, j'avoue qu'au premier abord vos raisons semblent bizarres, mais en y réfléchissant je les trouve justes. Il y aurait peut-être une sorte de préméditation hypocrite à rompre d'avance avec une vie qui vous plaît depuis si longtemps. Maintenant, Olivier, viens me présenter à la tribu de Madame Herbeau, dit gaiement Gérald. Adieu, mon commandant, je vous reviendrai bientôt et souvent. Que voulez-vous? Ce n'est pas pour rien que vous êtes mon confesseur. Et vous voyez que je ne suis pas un gaillard commode pour l'absolution et pour les arrangements de conscience, reprit gaiement le vieux marin. À bientôt donc, monsieur Gérald. Vous me tiendrez au courant des choses de votre mariage, n'est-ce pas? C'est maintenant un droit pour moi de vous en parler, et je n'y manquerai pas, mon commandant. Ah, mais j'y pense, dit Gérald. J'ai à vous rendre compte d'une commission dont vous m'avez chargé, monsieur Bernard. Tu permets, Olivier? Comment donc? Dit le jeune soldat en se retirant. Bonne nouvelle, mon commandant, dit tout bas Gérald. Grâce à mes démarches, et surtout à la recommandation du marquis de Maillefort, la nomination d'Olivier comme sous-lieutenant est presque assurée. Ah, monsieur Gérald, sera-t-il possible? Nous avons le plus grand espoir, car on a su qu'on devait faire à monsieur de Maillefort des propositions pour être député, ce qui a doublé son influence. Monsieur Gérald, dit le vétéran très ému, comment jamais reconnaître? Je me sauve, mon commandant, répondit Gérald, pour se soustraire aux remerciements du vieillard. Je cours rejoindre Olivier. Un plus long entretien éveillerait ses soupçons. « Ah, tu as des secrets avec mon oncle, toi, » dit gaiement Olivier à son ami. « Je crois bien. Je suis, tu le sais, un homme tout mystère. Et avant de nous rendre chez Madame Herbeau, il faut que je te demande un service très mystérieux. Voyons. Toi qui connais le quartier et les environs, ne pourrais-tu pas m'indiquer un petit logement dans une rue très retirée, mais en dedans de la barrière ?»« Comment ?» dit Olivier en riant. « Tu veux abandonner le faubourg Saint-Germain et devenir Batignolais? C'est charmant. Écoute-moi donc. Tu conçois que, demeurant chez ma mère, je ne veux pas recevoir de femme chez moi. Ah, très bien. J'avais un mystérieux pied-à-terre. J'aime ce mot, il est décent. Laisse-moi donc parler. J'avais un petit pied-à-terre, très convenable, mais la maison a changé de propriétaire, et le nouveau est si féroce à l'endroit des mœurs qu'il m'a donné congé. Et mon terme finit après-demain. Voilà donc mes amours sur le pavé, ou réduits à s'abriter derrière les stores des citadines, à affronter le sourire narquois des cochers, c'est désolant. Au contraire, cela se trouve à merveille. Tu vas te marier, on t'a donné congé, Donne à ton tour congé à tes amours. Olivier, tu sais mes principes, ton oncle les approuve. Je ne veux à l'avance rien changer aux habitudes de ma vie de garçon. Et si mon mariage ne se faisait pas, malheureux, songe que je me trouverais sans pied-à-terre et sans amour. Non, non, je suis beaucoup trop prévoyant, trop rangé, pour donner dans ces désordres et ne pas conserver une poire pour la soif. Poire pour la soif est très jolie. Allons, tu es un homme de précaution. Eh bien, soit. En allant et venant, je te promets de regarder les écriteaux. Deux petites pièces avec une entrée, c'est tout ce qu'il me faut. Tu sens bien que je vais m'en occuper de mon côté. Tout à l'heure, en sortant de chez Madame Herbeau, je vais flâner dans les environs, car ça presse. C'est après-demain le terme fatal. C'est par grâce que j'ai obtenu quelques jours de répit. Dis donc, Olivier, si je découvre par ici ce qu'il me faut, ça fait que dans le même quartier, je trouverai l'amour et l'amitié. Cette profonde réflexion ressemble beaucoup à une devise de Mirliton, mais c'est égal. La vérité n'a pas besoin d'ornement. Sur ce, en avant, chez Madame Herbeau. Ah ça, tu y tiens décidément. Réfléchis bien. Olivier, tu es insupportable. Je me présente tout seul si tu ne m'accompagnes pas. Allons, le sort en est jeté. Il est convenu que tu es M. Gérald Senter, un ancien camarade de régiment. Senter, non, ça serait imprudent. J'aime mieux Gérald d'Auvernay, car je suis aussi orné du marquisat d'Auvernay, tel que tu me vois, mon pauvre Olivier. Bien, tu es M. Gérald d'Auvernay, c'est entendu. Ah, diable! Qu'as-tu donc? Qu'est-ce que tu vas être à cette heure? Comment, ce que je vais être? Oui, ton état.
Mon état? Mais célibataire jusqu'à nouvel ordre.
Je ne peux pas te présenter chez Madame Herbeau comme un jeune homme qui vit des rentes qu'il a amassées au régiment.
Madame Herbeau ne reçoit pas de flâneurs. Tu éveillerais ses soupçons.
Car la digne femme se défie en diable de gens qui n'ont rien à faire qu'à courtiser les jolies filles, vu qu'elle en a de jolies filles.
C'est très amusant. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je sois?
Dame, je ne sais pas trop, moi.
Voyons, dit Gérald en riant, veux-tu pharmacien?
Va pour pharmacien, allons, viens.
Pas du tout, je plaisante. Tu acceptes cela tout de suite, toi, pharmacien, quel dangereux ami tu es.
Gérald, je t'assure qu'il y a de petits pharmaciens très gentils.
Laisse-moi tranquille, c'est toujours de la famille des apothicaires.
Je n'oserais regarder en face aucune des jolies filles qui viennent chez Madame Herbeau.
Eh bien, fou que tu es, cherche autre chose. Clerc de notaire, hein, cela te va-t-il?
À la bonne heure. Ma mère a un interminable procès. Je vais quelquefois voir pour elle son notaire et son avoué.
J'étudierai le clerc sur nature. Je me serai enrôlé dans le régiment de la Basoche en sortant des chasseurs d'Afrique. Ça va tout seul.
Allons, c'est dit, suis-moi. Je vais te présenter comme Gérald d'Auvernay, clerc de notaire.
Premier clerc de notaire, dit Gérald avec emphase.
Ambitieux, bah.
Gérald, présenté chez Madame Herbeau, fut, grâce à Olivier, accueilli par elle avec la plus aimable cordialité. Dans l'après-midi de ce même jour, le terrible M. Bouffard vint chercher l'argent dont lui était redevable le commandant Bernard pour le terme échu. Mme Barbançon le paya, résistant à grand-peine au malin plaisir de rissoler quelque peu les ongles de ce féroce propriétaire, ainsi qu'elle le disait ingénument. Malheureusement, l'argent que venait de recevoir M. Bouffard, loin de le rendre moins âpre à ses recouvrements, lui donna une nouvelle énergie et, persuadé que sans ses grossières et opiniâtres poursuites, il n'eût pas été payé de Madame Barbançon, il se dirigea en hâte vers la rue de Monceau où demeurait Herminie, bien résolu de redoubler de dureté envers la pauvre jeune fille afin de la forcer à payer le terme qu'elle lui devait.